La Constelación.
Amis de la scène, bonjour, bonsoir. Merci de nous retrouver dans la Conspiration des planches, le magazine critique des arts de la scène à Bruxelles, de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Une petite demi-heure pour parler un petit peu de la création scénique à Bruxelles, que ce soit en théâtre, en danse, parfois en cirque, parfois en jeune public également. Ça bouge beaucoup. Là, l'année 2013 a bien commencé. On a déjà commencé la semaine dernière, mais là, ça y est, c'est parti. La deuxième partie de la saison est bien. Non, marche. Avec moi en studio, Sophie et Catherine. Bonsoir, mesdemoiselles, mesdames.
Bonjour,
bonjour. Bienvenue avec nous. On va parler ensemble de mythes classiques qui sont un peu revisités. King Lear 2.0 du côté des Tanneurs. On ira voir également Serpent à Sornette du Piem aussi. Également. Il y aura un lien à faire justement entre ces deux pièces. Du côté des Martyrs, Baudelaire sera à l'honneur du côté du public. Et enfin, le mythe d'Édipe qui est repris, revisité du côté du parc. Eh bien, on va commencer tout de suite en direct, si vous nous écoutez le mercredi soir. Et on va prendre la direction du Théâtre Les Tanneurs, qui nous propose King Lear, un projet des deux côtés de la frontière linguistique, un petit peu, Catherine.
En effet, donc King Lear 2.0. Déjà, avec le titre, on se doute que c'est une réactualisation de Shakespeare. C'est en effet un projet transcommunautaire, puisque c'est Jean-Marie Piem, auteur francophone, qui a écrit une pièce à partir d'un auteur anglais, donc Shakespeare. Ce texte a été traduit en néerlandais pour être joué en Flandre, mis en scène par Raven Ruel, metteur en scène flamand, et maintenant traduit, revenu à sa version originale française pour être joué en français au Tanneur. Donc c'est un bel exemple de collaboration entre les deux côtés de notre petit pays. C'est intéressant en effet de voir que Jean-Marie Piem, en ce moment, il est un petit peu partout, puisqu'il y a son Serpent à Sornette bientôt repris au Martyr, ceci, et puis aussi bientôt au Théâtre du Parc, Feu la Belgique de Monsieur, entre autres, mis en scène par Frédéric Dussen. Mais pour le moment, King Lear 2.0 au Théâtre des Tanneurs, qu'est-ce que c'est? C'est donc une manière de revisiter le roi Lear, sauf que Jean-Marie Piem a imaginé que cette histoire nous est racontée par la fille du bouffon du roi Lear, qui évidemment n'existe pas dans le roi Lear. Et lui part de ce point de vue-là, imagine qu'elle revient sur sa terre natale en pleine guerre civile pour retrouver son père, parce que Shakespeare n'a pas tout à fait conclu le destin du bouffon dans le véritable roi Lear. Et voilà, elle arrive et elle va un petit peu en profiter pour régler ses comptes avec tout le monde, avec ce fameux roi Lear qui est une espèce de girouette berlusconienne. En tout cas, on ne peut pas s'empêcher de penser à Berlusconi avec ce roi baiseur, buveur,
sénile,
jouisseur.
Aussi. Dans le roi Lear, c'était ça.
Tout à fait, sénile, qui voit rien de ce qui est en train de se passer sous ses yeux et qui en même temps complètement imbu de lui-même et aveuglé par sa propre vanité, en fait, puisque le départ de King Lear, c'est qu'il décide de son vivant de partager son royaume entre ses trois filles. Seulement, il leur demande à ses trois filles de lui dire à quel point elles l'aiment. Évidemment, ces deux premières filles vont rivaliser de compliments parce qu'elles sont assez intéressées par ce partage. Mais la troisième, Cordélia, décide d'être assez franche avec lui. Et justement, c'est sa préférée, donc il est assez vexé et il va décider de la chasser du royaume. Voilà, ça c'est le point de départ. En fait, la comédienne, puisqu'il s'agit d'un seul en scène, d'une comédienne en fait hollandaise, mais qui a fait ses études à l'INSAS, donc il parle très bien français, même s'il y a un accent assez guttural. Qui vient de ses origines hollandaises, qui rend son personnage encore plus dur parce que c'est une fille assez brutale dans son jeu. Un jeu accentué d'ailleurs par le texte hein, qui, euh, qui est, comme d'habitude avec Piem, très féroce. Et donc elle y va, elle règle ses comptes avec les pétasses de filles.
Est-ce qu'elle interprète les différents personnages tour à tour ?
Elle interprète pas vraiment, elle raconte en fait. Elle raconte sur un ton assez violent, comme ça. Elle est seule, elle arrive en sweat et basket, elle a une petite table de mixage et puis elle joue avec les sons, comme ça, des beats un peu qui résonnent. Et puis tout à coup, elle va enlever ses vêtements et puis elle aura une belle robe. Et puis, alors là, la mise en scène se perd un petit peu parce qu'elle ouvre le rideau et puis tout d'un coup, elle se transforme en Électre dans une espèce de rituel, une cérémonie sacrificielle avec un sanglier qui pend et c'est ensanglanté. Et c'est un peu abattoir fermé, mais en moins bien, en moins intense. Et puis, on revient au récit. Alors, pour moi, le gros bémol, c'est le jeu de la comédienne. Au début, c'est impressionnant. Ce côté comme ça rentre dedans, elle s'adresse, elle est tout près du public, et elle l'invective, c'est hyper frontal, et elle a une belle présence, des yeux noirs, voilà, c'est assez électrique. Sauf que ça s'éternise pendant toute la pièce, et ça dure quand même 1h30, et ce jeu finit par lasser évidemment, parce que c'est intéressant si ensuite il y a des nuances qui arrivent, sauf que là les nuances n'arrivent pas, et donc ça, voilà, ça manque de changement de ton, ça manque de relief. Et c'est bien dommage parce que le texte est très intéressant. C'est en fait une critique de la bêtise qui se cache souvent derrière les luttes de pouvoir. Voilà, c'est une critique du pouvoir et de la politique. C'est féroce, mais ça aurait pu être joué avec plus de nuances.
Ce sera le bémol. Donc pour ce King Lear 2.0. Alors un petit mot aussi sur Ravenruel. C'est quelqu'un qu'on voit de plus en plus, y compris sur les scènes francophones. On l'a déjà vu cette année dans le spectacle Heroes de Fabrice Murgia du côté du Théâtre National. On l'avait vu également dans Bâle la saison dernière, puisqu'il mettait en scène. C'est quelqu'un qu'il faut quand même un petit peu surveiller.
Qui va mettre en scène Tribunal Tout National à fait. Cette saison. Oui, c'est un artiste à suivre, ça c'est sûr.
Voilà. Mais bon, King Lear 2.0, c'est à voir jusqu'au
26 février au Tanneur.
www.letanneur.be. Et on saute d'un piem à l'autre. Merci Catherine, en tout cas, on va te laisser filer parce que le théâtre t'appelle encore une fois. Et on va retrouver par téléphone Elisabeth pour l'autre piem de la semaine.
Pour l'autre piem, oui, tout à fait. Pour l'autre piem qui a un titre super, Serpent à Sornette. Alors voilà. Serpent à Sornette, alors de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'une critique tout aussi féroce que je pense pouvait peut-être King Lear, mais cette fois c'est pas du pouvoir, c'est d'une forme du pouvoir en tout cas particulier, puisque c'est vraiment la religion. Alors dans la ligne de mire de Jean-Marie Piem, cette religion qui n'est plus qu'une histoire de marché. Et tout au long de la pièce, il y a une grande métaphore qui est là, qui est celle de l'Église comme étant une grosse entreprise. Et voilà, on a Dieu qui est là comme un ex machina, mais finalement de quoi on parle? On parle de marketing. On parle de refaire son look, de rajeunir son look. Et pour rajeunir son look, il faut quoi? Il faut un tailleur, bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, le gros de cette pièce est en fait la confrontation de l'intendant de Dieu avec un tailleur. Alors on voit déjà à quel niveau on se trouve et surtout comment il faut prendre ça. C'est vraiment au second degré tout le temps, depuis le début jusqu'à la fin. Et ce qui est très chouette, c'est que ça fonctionne. Donc on retrouve, je vais vous dire aussi que Jean-Marie Piem est quand même un auteur phare de nos lettres. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est non seulement publié, mais qui est aussi monté, qui est adulé presque de son vivant, puisqu'il y a quand même une journée spéciale Piem avec la lecture de rien moins que 11 pièces, c'est quand même pas banal pour la Belgique. Bon, c'est aussi Piem, Jean-Marie Piem est aussi un homme de théâtre aussi, c'est quand même quelqu'un qui a écrit Le souffleur inquiet, qui est un peu un essai sur le théâtre, mais qui reste une référence à travers, je dirais, presque des décennies. Donc voilà, mais on retrouve son écriture qui est une écriture très très subtile, le second degré tout au long, et là cette écriture est servie par une très très belle distribution.
On va les citer peut-être,
Edwige Bailly. On va les citer tout à fait, parce qu'on a Alexandre Trocchi qui est donc l'intendant de Dieu, et puis on a aussi
Edwige Bailly.
D'ailleurs c'est Johan Blanc, et alors à côté de ça on a deux personnages féminins qui cassent la baraque aussi. Toutes les deux dans des registres très différents, puisqu'il y en a une, c'est l'ado, l'ado qu'on peut imaginer, hein, l'ado rebelle, l'ado qui pique. Et puis l'autre, c'est la grand-mère qui a son franc-parler. Et donc, on a ce duo féminin avec Edwige Bailly et Anne Silva. Mm-hmm. Alors, c'est drôle, drôle, c'est... Pardon ?
C'est féroce à souhait, donc, comme on aime
c'est
dans
tout à fait féroce à souhait. Et puis, il y a un petit côté clownesque qui est là. Il y a un décor qui est très, très épuré. On a Dieu qui est présent, mais c'est encore une fois, on comprend toute l'expression, tout le sens de l'expression Deus ex machina. Il intervient du plafond, voilà. Mmh. Mais c'est audacieux aussi. Et donc, on ne peut que vous dire, allez-y. Hein, c'est vraiment... c'est aussi un fameux duo, hein, puisque c'est quand même Piem à l'écriture, Philippe Sireuil
à la mise en scène.
Ils ont déjà travaillé ensemble. C'est aussi... C'est une génération qui n'est pas la génération montante, mais qui n'est certainement pas la génération descendante non plus, parce qu'ils prouvent qu'ils ont encore des choses à nous dire, qu'ils peuvent encore nous faire rire. Mais c'est un rire intelligent, c'est un rire subtil. Donc, voilà.
On te sent très enthousiaste, en tout cas, à propos de ce serpent à sornettes.
Je pense que si vous n'avez pas peur du deuxième degré, si vous avez envie de rire, mais pas de rire idiot, c'est l'occasion de voir que ça peut se faire, que le théâtre peut être à la fois corrosif, peut égratiner et faire rire et sourire en même temps. C'est vraiment ça. C'est jusqu'au 2 février.
Du côté des martyrs, hein. Évidemment, dans la grande salle, avec également des représentations le dimanche, comme à l'habitude des martyrs également en matinée.
Voilà, c'est un dimanche, donc il faut toujours bien se renseigner. Mmh. Une petite expo où on voit Jean-Marie Piem portraitisé, qui, avec encore une fois également le même esprit, deuxième degré, détournement de choses vues, etc. Donc prenez 5 minutes pour la regarder. Et franchement, non, une chouette équipe et une belle
Et toujours plus de Piem également lors d'une journée de lecture, hein, qui sera proposée. Ce sera le samedi 26 janvier, donc samedi en 8, à partir de 11h. 11 textes de Jean-Marie Piem seront lus par des comédiens. On ira voir peut-être des textes aussi parfois un petit peu plus méconnus, des textes courts aussi. Ce sera peut-être intéressant de voir aussi, de voir comment est lu Le Souffleur Inquiet, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Donc toujours plus de Piem. Et ce sera aussi du côté des martyrs pour une journée de lecture gratuite. Mais je crois qu'il faut quand même aller réserver pour être sûr d'avoir de bonnes places. Merci Elisabeth. On rappelle donc Serpent à sornettes de Jean-Marie Piem. C'est jusqu'au 2 février au Théâtre des Martyrs, théâtredesmartyrs.be.
La conspiration.
On va vers un mythe multiséculaire que l'on retrouve assez souvent au théâtre, mais même ailleurs. Et puis, qu'est-ce que ça a marqué toute l'histoire de l'humanité, que ce mythe d'Édipe, la psychanalyse s'en est beaucoup inspiré, si ce n'est c'est fondé là-dessus justement. Le parc qui nous propose c'est une nouvelle version d'Édipe, un Édipe roi ici. Hein, on connaît les différentes parties d'Édipe et notamment quand il est les yeux crevés sur la route, évidemment, avec sa fille. Ici non, il est roi. Ça fait quelques années qu'il est déjà au pouvoir. Il est au pouvoir avec Jocaste. Bien évidemment. On sait que le roi Laios qui le précédait a mystérieusement disparu et qu'il est conseillé par Créon également au sein de cette cour. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le pouvoir d'Édipe est de plus en plus contesté par la cité de Thèbes qu'il dirige et du coup, ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir convaincre le peuple du bienfait de ce pouvoir d'Édipe qui se fait aussi peut-être un petit peu plus autoritaire, d'autant qu'il y a de plus en plus d'afflux d'étrangers. Ça, c'est un petit peu la modernité de ce spectacle qui amène un petit peu l'immigration pour un peu renouveler le récit. Mais c'est de manière très, très subtile. C'est pas pesant et ça vient pas gâcher non plus le reste de l'intrigue. Une intrigue que José Besprosvani, qui a mis en scène ce spectacle, nous propose d'en faire une espèce d'intrigue policière ou en tout cas intrigue judiciaire, puisque le peuple va se poser la question, mais qui a tué Laïos? Comment Laïos a disparu? Ce qu'Édipe ne sait pas, évidemment, et ça je ne gâche rien au récit, c'est que c'est lui-même qui a tué Laïos, qui, je vous le rappelle, était son père, et qu'il a épousé Jocaste, sa mère, sans que personne ne sache qui est qui, évidemment, dans ce micmac familial. Oui, on se rappelle évidemment que Laïos avait été frappé d'une malédiction, d'une mauvaise prédiction, où on lui disait de son fils premier-né qu'il allait le tuer et épouser sa femme, Jocaste, en l'occasion.
C'est une mise en scène contemporaine, ça se passe de nos jours
Alors tout à fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Giuseppe Sprosvani est chorégraphe à la base, et puis qu'il a été évidemment vers le théâtre, il touche à tout, il adore tout ce qui est antique, il nous le ramène. Mais ici, pas de colonne, pas de temple antique, rien de tout cela, mais une mise en scène qui joue beaucoup sur l'ombre et la lumière en alliant danse et théâtre. C'est-à-dire que sur scène, nous avons 5 comédiens et 5 danseurs qui s'alternent. Les danseurs travaillent beaucoup sur tout ce qui est la cité, la population qui est là au pied du palais d'Édipe et qui est en train de se fâcher. Alors je disais que ça jouait sur l'ombre et la lumière parce qu'on est dans une ambiance très sombre. Ça étonne d'ailleurs pour le théâtre du parc où on a l'habitude d'avoir des décors à dorure et à profusion. Ici, non, un plateau quasi nu qui joue avec des parois amovibles qui sont amenées sur scène, retirées, qui servent à la fois d'écran de projection et qui servent aussi d'écran translucide où on voit les danseurs et les comédiens passer derrière dans l'ombre, et surtout pour évoquer les scènes du passé, les espèces de flashbacks qui interviennent notamment sur les différentes scènes. Parce que pendant ce spectacle, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'Édipe va voir son passé se révéler à lui et voir la conséquence de son geste évidemment se révéler à lui.
Et tout ça arrive sous forme de flashback en projection vidéo.
Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le texte est d'un auteur québécois, Olivier Kemed, d'origine libanaise également, et qui voyait ce texte jouer pour la première fois du côté du parc. Un texte très contemporain qui ramasse bien le mythe sans le désavouer, mais qui arrive à lui donner un certain dynamisme contemporain et qui est en plus accentué, comme je vous disais, par la scénographie. Une scénographie très architecturale qui se veut tout en profondeur, bien que en fait, c'est l'image et la vidéo qui est projetée qui incite cette profondeur et qui montre vraiment que, par exemple, le tribunal, on est sous des grandes colonnes blanches et noires qui sont projetées derrière, mais avec une perspective qui abrutit un petit peu les comédiens pour les abattre un petit peu.
Tu nous disais qu'il y avait aussi des danseurs sur scène. J'imagine qu'il y a aussi de la musique présente qui fait un peu guise de décor.
Oui. Alors c'est très sonore, comme ça. C'est Conrad Ecker qui a fait ça. On est dans une musique un petit peu électronique, électro-acoustique. C'est un peu difficile, mais on est en tout cas dans cette ambiance, parfois même un peu années 80, avec des formes géométriques qui sont là. Mais c'est pas de la ressucée comme on pourrait dire, mais c'est vraiment quelque chose de qui est bien amené, avec des vidéos qui ne sont pas figuratives mais qui sont vraiment là pour marquer une ambiance, avec des fumées comme ça qui sont teintées de rouge, de noir parfois, pour montrer aussi les instants de violence. C'est important donc de rappeler que aussi donc va se révéler cette histoire. Je vous le disais, ça n'est pas dénaturé avec les pointes de contemporains, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a quand même des moments qui sont très forts. Bon, parfois le jeu est un peu inégal. Par exemple, Gauthier Janssen qui fait Édipe est très bien au début. Après, bon, ça se tasse un petit peu. Isabelle Rouland qui fait Jocaste a un très très beau passage qu'elle fait sur scène et qui va clore un petit peu sa participation au spectacle sur scène, mais c'est vraiment très beau. Je trouve que Georges Siatidis est un petit peu sous-utilisé. On retrouve également Julien Roy qui joue plusieurs rôles de vieillard, notamment de Laïos, également de Tirésias, et Toussaint Colombani qui fait le jeune homme arguant la foule, un petit peu le meneur de la troupe de révolutionnaires. Côté des danseurs, Fernando Martin, Gaël Monfort, François Prodhomme, Milena Leclerc et Juan José Torres Martinez également, pour une très très belle distribution dansée et un très très beau, de très très beaux mouvements qui sont accomplis dans ce spectacle. Un spectacle qui fait du bien de voir au parc. On sait que Thierry Debroux, qui a repris le parc il y a 2 saisons maintenant, eh bien, essaie de faire bouger un petit peu la redynamise cette salle qui s'était un petit peu encroûtée, on va dire, dans le classicisme. Mais c'est bien, il fait ça par petites touches parce qu'il ne doit pas non plus choquer son public. Mmh. Voilà, donc Édipe de Olivier Quémède, d'après Sophocle et dans une mise en scène de José Bespros-Vanni. C'est à voir. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller au parc, eh bien allez renouer avec ce théâtre, très joli théâtre par ailleurs, jusqu'au 9 février. www.theatreduparc.be. Baudelaire nous attend du côté du public maintenant.
Oui, alors c'est ça, c'est donc Baudelaire qui s'invite sur la petite scène, la toute petite scène du théâtre Le Public. C'est dans une mise en scène de la Suissesse Françoise Courvoisier. Mmh. Et en fait, c'est un spectacle musical où il y a la rencontre un peu improbable, mais finalement qui colle bien entre Baudelaire et Brigitte Fontaine. Ah voilà, oui. Donc rencontre intéressante, parce que ce sont deux personnages finalement qui ont quand même des textes poétiques et qui sont des personnages subversifs et totalement à contre-courant. Donc voilà, le gros bémol, c'est que moi je n'ai absolument pas voyagé dans cette mise en scène autant qu'on pourrait voyager dans le recueil de poèmes de Baudelaire.
Justement, c'est un texte qui est dit, qui est déclamé comme ça, et comment elle se fait sur scène?
C'est un texte qui est joué, et voilà, pour moi, je trouve que ce spectacle n'a pas la forme qui aurait pu être la meilleure, voilà, qu'il mérite, parce que évidemment les mots de Baudelaire sont splendides, la rencontre avec Brigitte Fontaine est vraiment intéressante, mais dans cette mise en scène, voilà, on a une mise en scène réaliste, un décor très réaliste, trois personnages qui se retrouvent dans une scène de pique-nique champêtre, une forme de ménage à trois dont on ne connaît pas trop, on ne comprend pas trop la relation. Et en fait, ils vont communiquer entre eux avec les mots de Baudelaire. Donc, c'est pas une lecture de poésie, c'est le texte est mis en jeu et aussi mis en chanson. D'ailleurs, chanté pas toujours très justement, ce qui est un autre bémol, bien sûr. Et voilà, donc je pense que peut-être une lecture de Baudelaire, finalement, permet de mieux savourer le texte plutôt qu'une mise en scène qui, ici, en tout cas, selon moi, ne rend pas forcément justice au texte.
C'est une histoire de couple qui nous est contée ?
Il n'y a pas vraiment d'histoire, alors c'est ça. Donc les textes sont choisis donc dans le recueil des Fleurs du Mal, dans les trois éditions et dans les différentes sections des Fleurs du Mal. Et je dirais que c'est plutôt une évolution, en fait. Donc on passe du jeu de séduction entre deux personnages, puis bon, la jeune femme va se détourner et aller vers un autre. Bon, voilà. Jeu de séduction, l'état de bonheur, puis ensuite on passe vers la passion. Alors il y a quand même des scènes très sensuelles. Il y a un peu de danse, il y a un peu, enfin, de danse, voilà, de mouvement sur la musique, de très belles lumières par contre. Et puis on passe vers la passion et enfin la nostalgie, le désespoir, l'alcool, le spleen, voilà, la déchéance, la mort. Donc, Il y a un parcours, il y a un suivi, mais il n'y a pas d'histoire. Et le souci, c'est que parfois ces textes, ces poèmes se succèdent en étant alternés avec sur de la musique, mais ça va tellement vite que finalement on n'a pas le temps de se laisser bercer par la musique de Baudelaire.
Voilà, un petit essai peut-être un petit peu manqué du côté du théâtre du public. On peut peut-être citer la distribution.
La distribution, tout à fait. Donc déjà, la musique, c'est Arthur Besson, qui est un compositeur suisse. Et alors, sur scène, on retrouve Robert Bouvier, Aurélie Trivillain et Cédric Serbara. Donc, les deux derniers sont de jeunes comédiens belges.
La troupe du public, on les avait pu les voir, notamment dans L'Encrier a disparu. Belle surprise de la fin d'année 2012.
Voilà, tout à fait.
Merci, Sophie.
Donc c'est à voir jusqu'au 23 février, toutes les infos sur theatrelepublic.be.
Et ça clôtera ainsi notre conspiration des proches, bien évidemment. on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres créations, évidemment. On va se quitter sur Brigitte Fontaine. Ah, uh-huh. Que la vie est belle, je crois que c'est dans le spectacle.
Hein. C'est dans le spectacle, au tout début, dans les scènes de bonheur.
Dans les scènes de bonheur, ça c'est quand elle est encore heureuse, évidemment, Brigitte Fontaine, qu'on vous invite aussi à découvrir ici et ailleurs. Le podcast de cette émission, vous le retrouverez sur le site www.demandezleprogramme.be. Très belle semaine à vous et toutes les infos sur les spectacles sur www.radiocampus.be également. À bientôt.
Rival. de vermeil s'échappant du laser emplit l'air de soleil et d'ombre passagère.
Radio Campus, Bruxelles, 92.1.